nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Paul leur montre la belle plaquette rose. Je l'ai fait imprimer à 250 exemplaires. Maintenant, je vais les envoyer et les présenter. C'est ce qu'il fait. Il envoie les plaquettes avec une petite lettre de présentation disant qu'un de ses amis a écrit cela et qu'il trouve très bien. Il l'envoie aux femmes mariées et pas aux jeunes filles ni aux hommes. Pour éviter de choquer à cause du sujet, il dit dans sa présentation que ce sujet très délicat a été traité d'une façon poétique et subtile. Et cela permet de le lire sans honte ni dégoût, et que les mères, si elles le souhaitent, elles peuvent permettre à leurs filles de le lire. Bien entendu, après l'avoir lu elles-mêmes, ces dames du monde qui ont reçu la brochure intriguées se sont mises de suite à la lire. Elles ont été émues et troublées. Ce dont parle le livre, c'est de choses tellement intimes, et elles ont eu l'impression de se retrouver. Bien entendu, elles n'ont pas cru au nom de l'auteur, et ont pensé que c'était une femme qui l'avait écrit. Le livre passe de main en main, ces dames, au cours du thé, en parlent, et se le passent. Certains messieurs demandent ce que c'est, on leur dit.
Mais ce n'est pas pour vous, cela, messieurs.
Mais de quoi cela parle-t-il donc?
Des choses dont on ne parle pas aux hommes.
Certains hommes en cachette de leurs femmes le lisent et trouvent cette lecture malsaine pour les femmes. Ce n'est pas vraiment à cause des choses physiques, mais que l'on parle d'une femme d'un certain âge et veuve qui aime et donne rendez-vous à un jeune homme. Cela peut donner de mauvaises pensées. D'autres hommes sont choqués par le côté physique. C'est dégoûtant. La plupart des hommes qui ont lu la nouvelle en parlent à leur femme. C'est dégoûtant, immoral. Elles leur répondent en haussant des épaules.
Tu n'y connais rien, c'est très beau.
C'est tant de torchons souillés de sang et d'immoralité.
Pour vraiment le comprendre, il faut être une femme.
Si j'apprends que tu agis comme cette femme, je te chasse,
etc., etc. Dans les salons, l'on parle plus que de ça. Les femmes se mêlent entre elles pour défendre l'œuvre. Les hommes sont furieux et disent qu'elles sont folles et qu'un vent d'immoralité et d'impudeur leur est tombé dessus. Dans les salons de thé, les magasins, c'est devenu le sujet à la mode. Les journaux aimeraient en parler, mais ils ont peur car les patrons et les financiers sont des hommes. Le frère et la sœur ne se rendent pas compte de ce qui se passe et continuent à vivre comme avant. Il est vrai qu'ils vivent dans un autre monde différent, celui des parias. Paul sait qu'il le lui a dit, que l'argent commence à leur manquer et leur donne une petite pension.
C'est pour le loyer, mais je suis à la recherche d'un logement pour vous. Un écrivain de femme qui vit dans un endroit pareil, ce n'est pas très honnête. Aucune admiratrice n'osera venir vous voir ici. Je vais vous chercher un endroit correct. Un appartement qui fait pauvre, mais juste ce qu'il faut sans les offusquer. De la pauvreté pour femmes riches.
Deux semaines plus tard, il retrouve un petit appartement dans le quartier du Marais, dans un immeuble au fond d'une cour. Vieil immeuble, ancien de 3 étages. La cour est pavée, il y a un petit perron qui accède à l'entrée et qui est de bonne dimension avec de beaux escaliers de pierre. Paul leur a trouvé au 3e étage un petit 3 pièces cuisine. Couloir d'entrée. Les pièces sont de bonne taille. Lorsqu'au mur, boiserie au mur, cheminée, belle fenêtre, haute, parquet à la française. Il a fait meubler l'appartement avec des meubles de différentes époques et de bonne qualité. Faire en sorte à ce que l'appartement fasse un peu bohème, avec des tapis, des lampes de partout, plein de livres. Un désordre étudié, quoi. Lorsqu'il leur présente l'appartement, ils sont agréablement surpris. Enfin, ils sont sortis de leur misère. Paul leur dit,
« Cela vous plaît ?»
Apolline lui dit, « Oui, beaucoup. Mais comment allons-nous payer ?»«
C'est moi qui vais payer toutes vos dépenses. »
Jean-André lui demande, « En échange que de quoi ?»«
De ce que nous avons prévu. » Continuez à écrire et lorsque je vous le demanderai, vous viendrez avec moi à des soirées.
Apolline lui demande, et moi ?
Vous tiendrez la maison de votre frère.
Paul va voir Mathilde de Saint-Auban qui habite boulevard Saint-Germain, un magnifique hôtel particulier Louis XV, avec cour intérieure, écurie, parc derrière la maison. Elle vit seule, aidée d'une gouvernante et d'une flanquée de domestiques mâles et femelles. Bonne va sonner à la porte de l'hôtel. Un domestique lui a ouvert.
Monsieur, je suis Paul Voller et j'aimerais parler à Madame Mathilde de Saint-Auban. Je vais voir si Madame peut vous recevoir, monsieur.
Et il laisse Paul à l'entrée. Quelques minutes plus tard, il revient.
Madame veut bien vous recevoir. Si vous voulez me suivre, monsieur.
Il le fait entrer. Un grand escalier de marbre avec dessus, au milieu des marches, un tapis rouge. Au premier étage, il va le faire entrer au salon.
Entrez, monsieur. Il entre. Madame ne va pas tarder. Le domestique le laisse. C'est un salon Louis XV avec une tapisserie rose. Une autre porte est ouverte.
C'est une jeune femme, grande, mince, le visage de porcelaine, tout mignon, cheveux châtains en chignon, habillé d'une robe longue d'intérieur crevette. C'est le genre de femme qui reste avec un physique de petite fille. Elle s'approche de Paul.
Bonjour Paul, je suis heureuse que vous veniez me voir. On ne vous voit plus, méchant, va.
Vous pourriez me voir tous les jours si vous acceptiez de devenir ma femme.
Toujours aussi blagueur. Allons, allons nous asseoir.
Elle lui fait signe pour aller s'asseoir dans des fauteuils devant une table basse. Elle lui demande.
Alors, que devenez-vous ?
Toujours dans les affaires et l'écriture. J'ai justement un ami qui a écrit un petit quelque chose que je trouve très bien. Je voulais apporter.
Il lui tend le petit livre rose.
Qu'est-ce ?
Une petite nouvelle, très bien écrite, qui a un côté très féminin. L'auteur a su merveilleusement bien décrire le monde féminin.
Elle lui dit, je vois. Avec une petite chose sur les fleurs, les odeurs, les tissus, tout ce que d'après l'homme entoure la femme.
Car c'est un homme qui a écrit ça, non ? Et croit nous connaître.
Il lui dit, ce n'est pas vraiment cela.
Elle hausse les épaules et lui dit,
les hommes croient nous connaître, mais vous savez que beaucoup de jeunes filles préfèrent les soldats de plomb aux poupées.
Il lui dit,
oui, mais là, c'est vraiment féminin. Et je crois que c'est la première fois que l'on décrit certaines choses de cette façon. Lisez-le.
Si vous le voulez.
Il lui dit.
Tous les salons parisiens en parlent déjà. Et toutes ces dames en ont fait leur livre de chevet, malgré l'opposition des hommes.
Comment ? Déjà tout Paris l'a lu ?
L'on a frappé à la porte.
Entrez.
Bonjour madame.
C'est une bonne avec le plateau pour le thé qu'elle va déposer sur la table basse. Et ressort.
Comme d'habitude, du lait sans sucre.
Elle se sert. Elle le serre et se serre.
Elle lui demande « Dites pourquoi je suis la dernière à avoir ce livre ?»«
Pour vous le forcer à le lire. »«
Bien, je le lirai. Et alors ?»«
Si le livre vous plaît, vous voudrez connaître l'auteur. » Et je veux que ce soit vous qui l'invitiez pour le lancer dans le monde. Comme cela, tout Paris vous enviera et vous deviendrez la reine de Paris. »
Elle sourit. « Merci, c'est gentil. Je vois que vous êtes toujours amoureux de moi. »
« Oui, mais sans espoir. »
« Bien. Si vous permettez, je lirai votre livre. Vous reviendrez dans une semaine. » Je lis très lentement.
Comme toutes les femmes du monde.
Elle se lève.
Et lui dit, si vous permettez, je suis obligé d'arrêter notre entretien. Ce soir, je reçois. Il se lève. Très bien. Et elle le raccompagne. Oui, dans une semaine. Au revoir.
Au revoir.
Le frère et la sœur ont reçu l'ordre de mener une vie retirée dans leur appartement sans recevoir personne. Ils n'ont droit qu'à une pipe par semaine, mais la cuisinière fait de bons repas. Jean-André passe ses journées enfermé dans sa chambre à écrire. Il essaye de trouver un autre sujet et ce n'est pas facile. La sœur a décidé d'apprendre à chanter et va, avec la permission de Paul, à des cours de chant chez une vieille professeure, petite et maigre, toujours habillée de noir. Jean-André n'arrive pas à trouver un sujet. Cela l'énerve et aimerait tout laisser tomber. Le travail d'écrivain est dur, pénible et ne rapporte presque rien. On écrit juste pour se faire plaisir. Plus tard, Paul retourne chez Mathilde et lui dit « J'ai beaucoup aimé la nouvelle et je veux bien lancer votre homme. Menez-le moi jeudi prochain à 21h pour qu'il se fasse un nom. »
« Il a déjà un nom, madame. Sa famille est de la très haute bourgeoisie lyonnaise. »
Que veut-il de plus ? Il n'a pas besoin de moi.
Il veut se faire un prénom.
Eh bien, menez-le moi.
Il vit avec sa sœur.
Amenez-la aussi. J'ai de la chance qu'il ait du talent, parce que je n'aime pas m'occuper d'une famille.
Pas une famille, juste le frère et la sœur.
Bien, alors à jeudi.
Paul va prévenir le frère et la sœur qui le reçoivent dans leur salon.
Voilà, ça y est, vous êtes invité par Mathilde, jeudi à 21h. Vous allez pouvoir faire votre entrée dans le monde.
Jean-André lui dit, nous y sommes nés.
Bien, eh bien, disons que vous allez y retourner.
Apolline lui demande, et que devons-nous faire ?
Votre frère devra séduire Mathilde.
Jean-André lui dit, « Et si ça ne marche pas ?
Les artifices vous y aideront. Vous l'habituerez à l'opium. Elle ne pourra plus vous dissocier à son plaisir. Elle sera à votre merci. »
Apolline lui dit, « Vous voulez que mon frère agisse avec elle comme vous vous avez agi avec vous, avec nous ?»«
Oui, donc il va falloir vous préparer pour la soirée. Je vous mènerai chez un tailleur pour un habit. » Et vous, une robe. Mais cela n'est pas important. Surtout, il faut penser à tout ce que vous allez leur dire. N'oubliez pas que vous êtes d'une famille riche lyonnaise, que vous avez tout quitté pour vivre votre art, que vous vivez à votre sort, pauvrement mais honnêtement. Vous gagnez votre vie en faisant quelques lettres d'affaires, donc du secrétariat, quoi. Mais votre but, c'est d'écrire des livres.
En ce moment, vous êtes en train d'écrire quelque chose. Votre sœur est partie avec vous pour vous aider. Surtout, ne dites pas que vous voulez devenir comédienne. Cela est très mal vu dans le monde. Il y a des soupers et des soirées entre hommes pour ce genre de rencontres. Mais les femmes du monde ne se mélangent pas aux saltimbanques. Apolline est furieuse. Qu'y a-t-il d'immoral à montrer sur les planches ? Paul lui dit, vous vous exhibez. Pendant qu'il prépare la soirée, Mathilde, en feuilletant, en parle à tout le monde à ses thés. Oui, j'invite le André-Charles Beaumardin. Une petite blonde d'une main. Comment est-il ? Très bien. J'arrive pas à croire que vous alliez pu l'inviter. Personne ne le connaît. Personne ne sait qui il est. Même certaines femmes pensaient que c'était une femme qui avait écrit cette nouvelle. Vous êtes la femme la plus enviée de Paris. Mon Dieu. La soirée est arrivée. 200 personnes seulement. Les invités ont été tirés sur le volet. Ça a créé des fâcheries. Les dames invitées n'ont pas dit à leurs messieurs qui étaient invités pour éviter les disputes. Et les quelques hommes qui le savent sont curieux de voir cet animal qui connaît si bien la femme. La soirée est bien pour présenter Charles-André, mais on ne le dit pas. Toutes les pièces du bas ont été ouvertes et comme cela se présente en enfilade, ça fait une fois les portes ouvertes, une immense pièce. On a enlevé une partie des meubles, laissé dans quelques endroits un coin salon. Un orchestre joue sur une estrade, un buffet avec des estrades. Elle est si excitée qu'elle n'a même pas eu la façon d'attendre sa mère. Les premiers invités sont venus vers les 21h, car toutes ces dames veulent parler seule à seule avec la maîtresse de maison.
Alexei ?
Malheureusement, madame n'était pas prête. Elle n'avait pas fini de se préparer. Elle ne descend des escaliers qu'à 22h30. Habillée d'une robe en soie blanche, très légère et simple, qui la rendait encore plus élégante, ses cheveux simplement en chignon. Un petit collier de pierre laissait tout. Dans sa simplicité, au milieu de toutes ces femmes parées de bijoux, de tissus, de riches dessins colorés, elle ressemble un ange perdu dans un poulailler. Lorsque les autres la voient descendre les marches, elles accourent tout en bas. Elles, en bas des marches, elles se disent toute son amie, la plus chère, celle qui va recevoir les confidences. Une grosse femme lui demande, « Comment est-il ? Va-t-il bientôt arriver ?» Je n'en sais rien. Et vous verrez bien de vous-même comment il est. Une petite avec une tête chauve-cheval lui demande. Oh, ma chère, vous me le présentez. Henri m'a fait un tel effet que je n'en peux plus. Il faut absolument que je le voie.
Oh, Mathilde. Tout ça, c'est fini. Il aime Kitty maintenant.
Comment nous avez-vous trouvé ? On a bien dansé ?
Leur dit, ne vous en faites pas.
seulement si Alexa y veut bien.
Mais je vous en prie.
Vous le verrez tous lorsqu'il va arriver.
Merci, mais je n'aime guère danser.
Il ne vient pas seul.
C'est pas tort. La danse est pourtant un des plaisirs innocents.
Il est marié ? Non, ma chère. Mais il a une petite sœur. Comme un garçon bien sage. Et on attend l'arrivée de Charles-André comme l'on peut.
Seulement quand je l'ai
puis, un valet de pied à court vers Mathilde.
Vous ne sortez pas non plus à Saint-Pétersbourg.
Madame.
Pourquoi cette question ?
Parce que mon régiment y
est. Ils sont là.
Je crois
bien, votre j'arrive. Elle va vers l'entrée.
Mon mari
un groupe de femmes intriguées la suit.
Vous étiez ma femme, je vous exigerai.
Enfin, Charles,
vous n'avez uniquement qu'une
Apolline
je vais sans doute
et
vous
Paul.
Mais
Mathilde près d'eux. Elle le regarde bien. Elle le trouve très beau, avec des yeux frais, vieux, fiévreux. Sa joue très blanche, sa peau très blanche, on dirait le Christ. Elle leur dit, je suis très heureuse de vous recevoir chez moi. Paul s'avance et lui dit, madame, permettez-moi de vous présenter Charles-André. Enchanté, monsieur. J'ai lu votre nouvelle et j'ai beaucoup aimé. Merci, madame. Je suis très touchée. Mathilde va vers Apolline et lui dit, mademoiselle, vous êtes très jolie. Vous allez faire des conquêtes avec un tel sourire. Et cette robe en satin beige va très bien. Merci, madame. Puis elle dit à Paul, je vais présenter votre ami à mes invités. Faites, mon ami. Elle mène le frère et la sœur à des groupes de gens pour les présenter. Toutes ces dames sont excitées et ces messieurs curieux. Mathilde prend le bras de Charles-André et la main d'Apolline et leur dit, elles sont toutes jalouses de moi. Votre nouvelle a fait l'effet d'une bombe. On ne parle que de ça. C'est l'événement de la saison parisienne.
Dis-moi, tu ne pourrais pas donner quelques leçons de danse à toi ?
Après les avoir présentés à des amis, elle le mène au buffet boire du champagne. Elle demande à Charles-André, vous me faites danser ? Oui. Et vont se mettre en position pour danser. Devant les invités qui les envient. Fait danser Apolline. Mathilde, tout en dansant, lui dit, il faudra qu'on se revoie d'une façon plus intime pour faire plus connaissance. Je veux bien. Disons pour un thé chez moi, demain à 15h. Cela vous va-t-il ? Oui, madame, je viendrai. Ça fait longtemps que vous êtes à Paris ? Non, quelques mois seulement. Vous connaissez mon ami Paul depuis longtemps ? Non, j'ai connu. Par hasard, j'avais besoin de travail. J'ai appris qu'il cherchait une personne pour faire des lettres. Alors, j'ai été le voir et il m'a embauché. Puis, un jour, je lui ai dit que j'écrivais. Il a voulu lire une de mes nouvelles, l'a fait éditer, et voilà. Elle lui dit, et voilà, un vrai conte de fées. Je suis sûr que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez eue d'être lancé si jeune comme ça. En dansant, il sent son parfum. Ses mains sur sa taille le font frémir. Ce visage tout près de lui qui semble parfois se donner à lui. Il n'ose pas baiser les yeux de peur de voir sa gorge. Il se dit qu'il est troublé par une femme. Et quelle femme ? Une parisienne, une vraie. C'est-à-dire une femme qui sait mettre en valeur son corps,
qui connaît la dernière mode, qui n'a pas froid aux yeux. Une femme riche, intelligente, célèbre, veuve, et puis qui a reçu l'ordre, lui, de la conquérir. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.